L'Assemblée nationale a entamé mardi l'examen d'un projet de loi présenté comme essentiel par le gouvernement et objet d'un relatif consensus chez les députés. Il concerne l'avenir numérique et notamment la protection des données personnelles. Bonjour Valérie Peugeot.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins du samedi. Vous êtes chercheuse à Orange Lab, directrice de l'association VECAM qui depuis une vingtaine d'années s'occupe des enjeux sociétaux du numérique. Et vous êtes également membre de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui fête cette année d'ailleurs ses 40 ans. Juste pour une tentative de définition, parce que c'est très important de commencer par parler de ce qu'on connaît. Quand on parle de la protection des données personnelles, précisément, de quoi parle-t-on, Valérie Peugeot ?
Eh bien, on parle de tout un ensemble de règles qui sont censées permettre à l'individu de rester maître de ses données. Ces données qui envahissent le monde aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous les générons, nous les créons par, j'ai presque envie de dire, chacun de nos actes du quotidien, quand nous nous déplaçons, quand nous échangeons sur les réseaux sociaux, quand nous téléphonons, quand nous allons dans un supermarché, quand nous prenons notre métro quotidien ou notre bus quotidien, eh bien nous générons des informations qui racontent des choses sur nous, sur notre environnement, sur
notre
centre d'intérêt, sur
nos
centres d'intérêt, sur effectivement sur nos goûts, mais aussi, et ça c'est très important, des choses qui concernent notre entourage, parce que les données sont éminemment sociales. C'est-à-dire que quand on est sur un réseau social, par exemple, eh bien on interagit avec des tiers, avec des amis, des connaissances. Et les données que nous générons, eh bien, elles parlent de ces interactions entre les humains. Donc, ces données sont à la fois profondément intimes et tout à fait sociales.
Oui, c'est ce qui fait dire au chercheur Antonio Casilli qu'il n'y a rien de plus collectif qu'une donnée personnelle aujourd'hui.
C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donnée personnelle telle que le définit le droit, elle doit permettre elle se raccroche à l'individu à partir du moment où elle permet d'identifier ou potentiellement d'identifier un individu. Pas, quand on dit identifier, ça ne veut pas dire la raccrocher nécessairement au nom de la personne, mais simplement être en capacité de reconnaître cette personne. Donc déjà, c'est un champ très large. Mais aujourd'hui, le débat porte sur le fait que les données sont agrégées et sont commercialisées sur des places de marché, notamment dans le monde de la publicité en ligne. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des mondes où les données personnelles, une fois anonymisées, agrégées, font l'objet d'un marché, sont sur un marché.
Selon une récente étude de l'Institut CSA, 85% des Français se disent préoccupés par la protection de leurs données personnelles. Est-ce qu'ils ont raison ?
C'est effectivement une question qui monte de plus en plus dans l'espace public et on ne peut que s'en réjouir parce qu'il est indispensable que chacun d'entre nous, nous prenions conscience que le choix des outils que nous utilisons, par exemple, va pouvoir plus ou moins mettre en fragilité nos données personnelles. Et donc il y a une nécessité d'une forme de responsabilisation des individus dans la manière dont ils se comportent sur les services numériques.
Surtout qu'il y a peut-être une différence entre le droit et la pratique, Valérie Peugeot, en la matière.
Entre le droit et la pratique, il y a un écart. Mais effectivement, la CNIL est là pour veiller à ce que cet écart ne se creuse pas. Donc là, c'est la responsabilité de cette fois-ci du législateur et d'une autorité comme la CNIL de vérifier à ce que les services qui collectent nos données respectent le droit, soient en conformité, c'est-à-dire sécurisent les données, permettent à l'utilisateur de donner son consentement dans des conditions claires, lisibles, compréhensibles. Il y a toute une série de règles aujourd'hui, règles qui sont en train de se renforcer. Et ça, c'est un point très important, puisque à partir du 25 mai prochain, s'en vient un règlement qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui, je dirais, revisite et renforce notre loi informatique et liberté qui, effectivement, fête ses 40 ans cette année. Donc, c'est une loi qui a montré sa robustesse, hein, 40 ans dans un contexte de transformation profonde du point de vue technologique, c'est quand même, je dirais, une performance. Et donc il était temps aussi de la revisiter un petit peu. Et c'est ce que fait ce règlement européen. qui va non seulement conforter les principes qui sont dans la loi de 78, mais qui va aussi accorder un certain nombre de droits supplémentaires à l'individu.
Mais alors pourquoi, Valérie Peugeot, une loi à l'Assemblée nationale maintenant, justement pour se mettre en conformité avec le règlement qui va s'appliquer en mai?
Tout à fait. Le règlement juridiquement s'applique directement dans le droit européen, mais il était nécessaire de toiletter notre loi pour incorporer ce règlement dans notre droit. Et surtout, ce règlement prévoit un certain nombre de marge de manœuvre pour les États, c'est-à-dire qu'il y a un socle commun qui s'impose à tous les membres de l'Union européenne, mais il y a également un certain nombre de petites marges de manœuvre où les États ont le choix d'appliquer de façon plus ou moins, on va dire, renforcée le droit. Et donc cette loi, tout ce débat qui vient d'avoir lieu cette semaine à l'Assemblée nationale avait pour objet de regarder ces marges de manœuvre et de décider dans quelle mesure la France allait les utiliser ou pas.
Est-ce que ces marges de manœuvre s'appliquent par exemple à la question de la majorité numérique, puisque je crois que le règlement européen fixe cette majorité numérique à 16 ans, mais que précisément il autorise les États membres à l'abaisser jusqu'à 13 ans. C'est le cas en Espagne et en France, on a baissé la majorité numérique à 15 ans.
C'est oui, par exemple tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un exemple, un très bon exemple. Effectivement, par défaut, l'âge de 16 ans était prévu. En l'occurrence, c'était l'âge qui avait été suivi à la fois, enfin, par la CNIL et d'autres. Et l'Assemblée a choisi de l'abaisser à 15 ans. À vrai dire, le
Parce
débat...
Parce que c'est l'âge auquel on rentre au lycée,
le débat est un peu compliqué et souvent déplacé. Il est compliqué parce qu'effectivement, d'un enfant à un autre, la maturité par rapport au numérique varie considérablement. Certains enfants à 13 ans sont tout à fait en état d'avoir conscience de leur choix, de la manière d'agir sur les réseaux sociaux notamment. D'autres, il faudra attendre 16 ans. La question n'est pas là. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on contrôle qu'un enfant a vraiment l'âge qu'il dit avoir au moment où il se connecte sur un service. Et là, c'est très très compliqué de vérifier ça, parce qu'évidemment...
Mais surtout, ça veut dire quoi, du coup, la majorité numérique? Ça veut dire qu'il est responsable lui-même de ce qu'il met comme données sur Internet?
Ça veut dire qu'il peut s'inscrire sur un service en ligne sans avoir besoin de demander le consentement de ses parents. Donc, 15 ans, c'est assez cohérent, parce que c'est un âge qu'on retrouve dans d'autres domaines. Donc, il y a une espèce de d'évolution du droit pour converger vers 15 ans comme une espèce d'âge de la maturité plus générale, même si ce n'est pas vrai dans tous les domaines. Après, ce qui est compliqué, c'est à la fois de vérifier que l'enfant qui prétend avoir 15 ans a bien 15 ans. Donc ça veut dire que dans le parcours d'inscription, il faut qu'il y ait toute une série d'alertes, que ce soit très clair, etc. Et puis, surtout dans les cas où, ce qui est encore plus compliqué, c'est dans le cas où l'enfant n'a pas cette majorité numérique, comme vous l'appelez, eh bien, de savoir si les parents, eux, donnent cette autorisation en connaissance de cause. Eh bien, souvent, les parents sont moins conscients que les enfants de la complexité de la protection de sa vie privée en ligne. Donc, en fait, il y a tout un travail de pédagogie qu'on doit adresser aussi bien, qu'on doit diriger aussi bien vers les parents, vers les enfants. Et puis de vérifier, bien sûr, que c'est bien le parent qui dit oui et pas l'enfant qui se cache derrière un pseudo-parent. Donc, vous voyez, c'est une problématique très très compliqué et on a cristallisé le débat sur l'âge, mais ce n'est pas le cœur du débat.
Valérie Peugeot, il y a d'autres mesures qui sont prises, hein, bien sûr, dans cette loi, qui prévoit d'ailleurs de nouveaux droits, comme un droit à l'information, un droit à la portabilité, et un contrôle des entreprises qui était a priori, qui passe a posteriori, c'est-à-dire...
Alors, le droit à l'information, il existait déjà, hein, j'insiste sur ce point. Il y a toute une série de droits qui étaient là, encore une fois, depuis 40 ans dans le droit français.
Et qui sont renforcés.
Alors, le droit à la portabilité, avant de répondre à votre question, j'insiste sur ce point, il est très important. C'est un nouveau droit qui va permettre à l'individu de récupérer les données qu'il a générées par ses actes sur un service, hein, donc voilà, et de récupérer ces données soit pour les utiliser pour lui-même, point très important, soit pour les emmener dans un autre service. Et ça, c'est un changement radical parce que cela veut dire qu'on sera moins prisonnier d'un certain nombre de services qui sont aujourd'hui sur le web en situation d'oligopole ou de monopole et qu'on peine à quitter parce qu'on sait qu'on va perdre toute cette histoire. C'est-à-dire que pendant des années, on va poster des informations ou des photographies, etc., sur un service. Et puis le jour où on n'est plus content de ce service, eh bien, on reste là parce que nos données sont là. Or, en permettant à l'individu de bouger d'un service à l'autre, c'est aussi une manière non seulement de renforcer ses droits, mais c'est aussi une manière de remettre de la concurrence. Et ça, c'est un point très important, parce qu'une des problématiques liées à la vie privée, c'est le fait que dans un monde monopolistique ou oligopolistique, eh bien, les acteurs ont tendance à faire un peu ce qui leur chante, alors que si vous remettez de la concurrence, eh bien, le fait d'offrir un service plus protecteur de la vie privée devient un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'individu entre deux services, je dirais, de qualité équivalente, vont avoir tendance à aller vers le service le plus protecteur. Et alors, pour répondre à votre question...
Sur le contrôle des entreprises.
Sur le contrôle des entreprises. Effectivement, jusqu'ici, on était plutôt dans une logique de responsabilité en amont, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'organisation, hein, n'oublions pas que ce ne sont pas que les entreprises privées, ce sont aussi des organismes publics, devait effectuer un certain nombre de démarches auprès de l'autorité protectrice des données, la CNIL en France. Donc, une déclaration en ligne lorsqu'on crée une base de données toute simple et lorsqu'on est amené à manipuler des données dites sensibles, comme des données de santé, par exemple, eh bien, à ce moment-là, une procédure plus lourde qui consiste à demander une autorisation à la CNIL. Bon. Aujourd'hui, ces démarches qui étaient jugées complexes, bureaucratiques, qui avaient tendance à générer un engorgement à la Commission, elles sont déportées effectivement vers l'organisation qui doit faire ce travail en interne pour vérifier qu'il est en conformité avec le droit. Mais cette vérification, elle peut être parfois assez complexe avec des ce qu'on appelle des PIA en anglais, des études d'impact, qui est une procédure pour vérifier qu'on est vraiment conforme aussi bien du point de vue juridique que du point de vue technique, c'est-à-dire la manière dont on sécurise les données. Est-ce qu'il y a des mots de passe suffisamment solides? Est-ce que les serveurs sur lesquels sont hébergées ces données sont bien sécurisés? Est-ce que les personnes qui ont accès à ces données sont en nombre limité? Est-ce que les données sont collectées, je dirais, de façon proportionnelle, etc. Voilà, toute une série de règles à la fois juridiques et techniques. Le contrôle doit se faire en amont au sein de l'organisation. Par contre, là où ça change, et c'est le corollaire, enfin c'est ce qui fait l'équilibre général dans l'esprit de ce règlement, c'est que le pouvoir de contrôle et de sanction des autorités protectrices des données est renforcée. Donc, si on prend l'exemple de la CNIL, jusqu'en 2016, la CNIL, en termes de pouvoir de sanction, pouvait utiliser une amende qui allait jusqu'à 150 000 euros, ce qui, vous imaginez bien, pour une très grande entreprise du web, c'est à peu près le prix d'un paquet de cigarettes. Avec la loi République numérique, ce pouvoir de sanction a été renforcé. Et là, on fait un saut, je dirais, magistral, puisque la sanction peut se porter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Donc, vous imaginez, prenez un géant du web quelconque.
Là, Google et Facebook ont qu'à bien se tenir. Peut-être ce qui explique, Valérie Peugeot, que fin janvier, Facebook a non seulement confirmé l'acquisition d'une start-up spécialiste de la vérification des données d'identité et qu'elle a publié un message à l'attention de ses internautes, leur précisant leurs droits en matière de contrôle de leurs données. Alors, désormais, on peut supprimer son profil, on peut décider de qui regarde ces messages, on peut rester propriétaire de ces informations. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise comme Facebook aujourd'hui fait preuve de conciliation parce qu'elle a tout intérêt à le faire, compte tenu de ce que vous venez de nous expliquer?
Alors, je vous arrête juste sur un mot, on n'est pas propriétaire de ces informations.
Voilà. Très important,
c'est un point très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On est maître de ces données, hein. C'est vraiment cette notion d'autodétermination informationnelle, qui est un terme qui peut paraître un peu barbare, mais c'est vraiment l'idée que la donnée est rattachée à la personne, ce n'est pas un objet, voilà, ce n'est pas une chose, il ne faut pas il ne faut pas réifier la donnée, il ne faut pas la chosifier, si je puis dire, pour employer un terme. Voilà.
Sur la conciliation de Facebook et des GAFA.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces acteurs qui sont régulièrement montrés du doigt en ce moment sur cette question de protection des données personnelles sont en train de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir respecter le fameux règlement dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que un point très important dans ce règlement, c'est qu'il est d'application territoriale. C'est-à-dire, et quand je dis territoriale, le critère de territoriale réalité, ce n'est pas le fait que l'entreprise soit basée dans un pays européen, mais le fait que l'utilisateur du service soit européen. Donc, que vous vous appeliez Facebook, Google ou Baidu, si vous êtes un acteur chinois ou Tencent, ou peu importe, où que vous soyez, à partir du moment où vos utilisateurs, vos clients sont en Europe, le droit s'applique. Et donc, ils sont effectivement en train de se mettre en ordre de bataille. Il y a presque un paradoxe, parce qu'on a l'impression par moment que les acteurs européens qui ont l'impression d'être déjà, d'avoir baigné depuis des années dans un droit européen légèrement plus protecteur, ont plus de mal à se mettre en route pour se mettre en conformité avec ce règlement. Alors que les acteurs extra-européens se mettent en conformité. Et c'est aussi un point de, je dirais, une forme de soft power de l'Union européenne qui diffuse à l'échelle mondiale ce nouveau socle de droits qui irradie dans le monde entier. C'est très intéressant de voir ce phénomène se
propager un peu
partout.
Manifestement, tout ça va dans le bon sens, en tout cas. Valérie Peugeot, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques petites minutes, juste après la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Il est 8h31 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Et on commence par les JO qui se sont ouverts hier à Pyeongchang, en Corée du Sud. Mais dans la presse, il est très peu question de sport.
Et oui, et la discipline dont il est question, en fait, c'est surtout celle de la diplomatie. Et ce n'est pas la première fois que le sport rapproche les deux Corées, relève Eric Scholl dans l'édito de Courrier International. La diplomatie olympique est à l'œuvre et n'aura pas manqué de symboles. Même chant, même drapeau, équipe commune de hockey féminin et bien sûr la présence historique de la sœur de Kim Jong-un à Séoul, la sœur de Kim Yo-jong, qui a transmis, on vient de l'apprendre, ça vient de tomber, une invitation officielle au président sud-coréen à se rendre à Pyongyang pour un sommet très prochainement. Alors comment interpréter ces signes d'ouverture inattendus de la part du régime ? Dans les pages tribunes du Figaro, vendredi, le chercheur Pierre Rigoulot saluait la performance olympique, entre guillemets, de Kim Jong-un, une manière très ironique de dénoncer l'hypocrisie, voire l'esprit machiavélique du dirigeant. Et ce n'est pas le premier revirement du régime, rappelle-t-il. En 93, le Nord avait signé un accord avec le Sud annonçant, je cite, un avenir radieux et fraternel. Quelques mois plus tard, avait eu lieu le premier essai balistique. Bref, ce rapprochement pour Pierre Rigoulot, c'est avant tout une manière pour Pyongyang d'obtenir de l'aide financière ou alimentaire. Telle est la fonction de ces ouvertures, endormir la vigilance des démocraties sans cesser de se renforcer militairement. Voilà qui nous fera regarder peut-être d'un autre œil les épreuves de hockey sur glace cette semaine. Et pour un autre regard, peut-être plus distancié sur les Corées, on lira avec intérêt le dernier numéro de la revue Critique, où l'on apprend l'existence d'une troisième Corée, celle du district coréen situé en territoire chinois, considérée comme chinoise par le Nord, communiste aux yeux du Sud. Cette troisième Corée est la plus souvent ignorée. C'est une Corée qui a une géographie, mais pas d'histoire, explique le chercheur Patrick Morus. Difficile de retracer la généalogie de ces Coréens locaux qui ignorent le trajet de leur famille, sauf s'il est très récent. Voilà, à lire donc pour aller plus loin ce numéro qui parle avant tout d'une péninsule dans son ensemble et non pas uniquement du conflit et de la partition qui la divise.
D'accord et de réconciliation, il y en a aussi été question cette semaine en Allemagne. Et
toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est une étape importante qui a été franchie cette semaine. Jeudi, dans son éditorial, le journal Le Monde saluait l'annonce de l'accord enfin trouvé entre la CDU et le SPD pour former un gouvernement en Allemagne. La bonne nouvelle de cet accord, c'est son orientation pro-européenne, écrit le journal. Paris va pouvoir retrouver son coéquipier du tandem franco-allemand. Rien n'est joué, pour autant, et le futur gouvernement d'Angela Merkel est déjà critiqué de toutes parts, relève ce matin RFI sur son site. Sous le feu des critiques, Martin Schulz a renoncé hier à être le chef de la diplomatie. Dans Libération, jeudi, l'historien Johann Chapoutot constatait que ce débat ne passionne guère les Allemands et que les grands partis de masse sont en voie de désaffection. La société civile, au contraire, se porte diablement bien, écrit-il, et c'est réjouissant, à commencer par les syndicats, des syndicats puissants qui arrachent des augmentations de salaire et des réductions du temps de travail, comme vient de le prouver IG Metall. Le passage aux 28 heures, plus qu'un changement social, c'est un changement de civilisation pour Johann Chapoutot. Bref, l'Allemagne, une société en pleine transformation, loin de la crise de ses partis ou de son industrie automobile.
Et dans la presse également cette semaine, une interview inédite de Michel Michel Foucault dans l'Obs, alors que les éditions Gallimard ont publié le 4e volet de sa monumentale histoire de la sexualité. Vous vous êtes intéressée, Mélanie, à cet article dans l'Obs.
Oui, un entretien tout à fait passionnant que le philosophe avait donné au magazine en 1978 et qui n'avait jamais été publié. Retrouvé récemment dans les archives de la BNF, l'Obs publie donc cet inédit où il est question de la révolution iranienne, alors en pleine gestation. Michel Foucault, qui revient d'un séjour en Iran, s'interroge sur les origines du soulèvement. « J'essayais, dit-il, de savoir quelle avait été la force, quelle est toujours la force, qui peut actuellement dresser contre un régime épouvantable, terrible et terriblement fort, tout un peuple qui a les mains nues. » Foucault parle d'un mouvement de spiritualité politique à l'œuvre en Iran. La spiritualité, cette force qui nous transforme, qui nous donne une possibilité de soulèvement, elle est à l'origine de tous les grands bouleversements politiques, sociaux et culturels, affirme-t-il. Mais il ne faut pas confondre spiritualité et religion, bien sûr. Mais oui, les religions peuvent être une sorte de structure de la spiritualité. Dans le cas de l'Iran, il faudrait être aveugle, dit Michel Foucault, pour ne pas voir que partout, c'est bien de l'islam dont on se réclame et de ses chefs religieux. C'est un fait, on ne peut le nier, dit-il. Alors voilà, un entretien visionnaire sur la dimension religieuse de la révolution iranienne. Une dimension qui l'avait passionné, souligne Eric Eschiman en préambule du texte. À sa lecture, on se dit qu'il aurait pu être écrit hier.
C'était la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Et on retrouve notre invité de la deuxième heure, Valérie Peugeot, membre de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté depuis 2016, chercheuse à Orange Lab et directrice de l'association sur les enjeux sociétaux du numérique, l'association VECAM. Si nous parlions un peu de monnaie avec vous, Valérie Peugeot, parce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la CNIL va pouvoir, grâce à ce règlement européen qui va s'appliquer le 25 mai dans tous les pays de l'Union européenne, donc la CNIL va pouvoir sanctionner une société à hauteur de 4% de son chiffre d'affaires mondial, ce qui paraît effectivement considérable. Cela dit, la CNIL est-elle en capacité de faire respecter les lois quand on sait que son budget annuel est de 17 millions d'euros? Et juste pour information, le chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison de Google, était de 110 milliards de dollars en 2017. Donc on a quand même un peu l'impression que c'est David contre Goliath.
Alors d'abord sur ce 4% de chiffre d'affaires, je reviens là-dessus, il faut comprendre que c'est le principe de la bombe atomique, elle est faite pour ne pas
la dissuasion.
Voilà, exactement. Donc l'idée c'est que, et on le voit déjà, hein, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs qui respectaient, je dirais, plus ou moins la loi informatique et liberté sur le droit d'accès aux données, etc., le droit de rectification, voilà, des droits qui existent depuis 40 ans encore une fois, sont tout à coup en train de se réveiller en se disant tiens, il faut peut-être qu'on se mette en conformité. Bon, donc, alors pour revenir à votre question, effectivement, les moyens de la CNIL aujourd'hui sont un petit peu légers, nous ne le cachons pas, la présidente s'en est ouverte à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gros du travail de la CNIL, ce n'est pas tant la sanction que l'accompagnement. C'est le cœur de son métier, c'est quelque chose qui est méconnu, parce que souvent, les gens gardent une image un peu décalée de la réalité de la CNIL. Ils voient encore la CNIL d'il y a 20 ans, c'est-à-dire effectivement un peu le côté gendarme, etc. En réalité, le gros de l'activité de la CNIL, c'est d'aider les acteurs qui la contactent pour se mettre en conformité, de les former, de construire aussi des règles de droit souples qui vont simplifier la vie des acteurs. Il y a toute une série de ce qu'on appelle par exemple des packs de conformité, des mesures de simplification qui vont alléger justement le travail des acteurs pour être en conformité, rendre le droit lisible, simple, compréhensible. Et ça, ce travail-là, il est particulièrement intense en ce moment, puisque effectivement il y a une forme d'agitation de toutes les entreprises qui sont un peu, pour certaines, un petit peu paniquées par ce règlement complexe. Et la CNIL est au four et au moulin, si je puis dire, pour aider ces acteurs à digérer le règlement, à se l'approprier et effectivement à se mettre en conformité. Donc aujourd'hui, la CNIL, ce sont 200 permanents, hein. À la fois des juristes, mais aussi des gens qui ont des compétences techniques, des ingénieurs. Il faut voir que en Allemagne, ce sont 600 personnes, au Royaume-Uni, ce sont 600 personnes. Dans la plupart des pays, comme l'Irlande, on embauche à tour de bras chez les autorités protectrices des données. Et malheureusement, en France, le gouvernement n'a pas jugé bon d'augmenter substantiellement les moyens d'action de la CNIL, ce qui paraît presque à contresens de l'histoire.
Oui, surtout quand le champ de compétences s'élargit et quand les dossiers sont de plus en plus nombreux, en effet, et de plus en plus différents et de plus en plus complexes.
Tout à fait. Donc là, nous espérons que l'année prochaine se placera sous de meilleurs augures pour la CNIL.
Et que le message sera entendu.
Voilà.
Pour rester un tout petit peu dans ces histoires de monnaie, on a assisté cette semaine à un débat sur la création d'un marché de la data. Alors ça a été par tribune collective interposée, hein, ça se fait beaucoup en ce moment, dans la presse. Certains pour que chaque citoyen puisse monnayer ses informations personnelles. C'était le cas d'une tribune signée notamment par Laurence Parisot et Alexandre Jardin. Et puis d'autres qui n'étaient pas du tout d'accord et qui ont répondu dans une tribune. Ça a été votre cas, Valérie Peugeot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux de ce débat ?
Mais en fait, le point de départ de ceux qui défendent une patrimonialisation, une commercialisation de la donnée personnelle, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'asymétrie de pouvoir entre les individus d'un côté et les responsables de traitement, les collecteurs de données, les services numériques, etc. Bon, tout le monde s'accorde là-dessus, pas de souci. Par contre, sur la réponse, nous divergeons complètement. Effectivement, un certain nombre d'acteurs ressortent une vieille idée, hein, elle est un petit peu rancie, si je puis dire. Cette idée qui a l'air comme ça, de tomber sous le bon sens, voilà, il suffit de rendre les gens propriétaires de leurs données et ensuite pour les monétiser et donc décider oui ou non s'ils acceptent que leurs données soient collectées et comment, voilà. En fait, c'est vraiment la fausse bonne idée, quoi. Pour dire les choses de façon radicale, la fausse bonne idée pour des raisons purement économiques, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Quand je dis que c'est une vieille idée, elle a déjà été essayée depuis 5-7 ans. Il y a toute une série de start-up qui ont essayé de se positionner de cette manière-là en disant aux individus, ouvrez-nous votre compte Twitter, votre compte Facebook, etc., etc. Nous, on récupère vos données et on va vous les monétiser pour vous sur des marchés. Le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est quelques centimes d'euros pour avoir accepté de vendre vos données, de livrer à ces start-up intermédiaires vos données. Donc, en tant qu'individu, je vois pas très bien l'intérêt de me priver de ma vie privée pour quelques centimes d'euros. Donc, ça ne marche pas. Déjà, voilà, ça c'est un simple constat économique. Et en imaginant que cela marche, voilà, je me mets dans l'hypothèse positive, ça ne résout rien. Ça ne résout strictement rien pour la simple bonne raison, c'est que on retrouve cette asymétrie de pouvoir et que au final, ce seront ces mêmes entreprises qui seront en capacité de négocier la valeur des données, de les monétiser et lundi, on va retrouver à nouveau une forme d'inégalité numérique, c'est-à-dire que on pourra les personnes qui auront les moyens pourront décider de ne pas vendre leurs données, donc de protéger leur vie privée, et puis nous aurons des sortes de pauvres numériques qui seront bien obligés de commercialiser leurs données. Donc toute chose égale par ailleurs, c'est un peu, alors je dramatise un peu bien sûr, mais c'est un peu comme...
Pour défendre votre position, on l'entend bien, parce que vous allez y venir.
Les personnes... qui sont obligés de vendre leurs reins dans des pays pauvres, qui vendent leur corps, des morceaux de leur corps, parce qu'ils n'ont juste pas le choix pour survivre. Donc on aurait en monde numérique les riches qui pourraient protéger leur corps numérique et les pauvres qui seraient obligés de le commercialiser. Bref, donc d'un point de vue économique, ça ne tient pas la route. Maintenant, la question de toute façon n'est pas là. La question, c'est que la donnée personnelle, c'est vraiment quelque chose qui se raccroche à la personne. Notre régime juridique, il est personnaliste, c'est-à-dire qu'il, voilà, c'est un droit. Et de la même manière que on ne vend pas notre corps, on ne vend pas ses données personnelles, qui sont à la fois, je le disais tout à l'heure en introduction, à la fois totalement intimes puisqu'elles racontent de choses qui sont de l'ordre de sensible, de nos vies privées, de nos agissements, de nos choix, de nos goûts, de nos centres d'intérêt, et aussi éminemment sociales. Hein, c'est ce que je disais. Tout à l'heure. Donc, en plus, d'un point de vue pratique, je prends un exemple tout simple. Hein, quand vous mettez un like sur Facebook sur le post d'un ami ou d'une amie, à qui appartient ce like ? À vous, parce que c'est vous qui l'avez posté, ou à cet ami, parce que ça se raccroche à un de ses centres d'intérêt. Donc, d'un point de vue pratique, c'est totalement ingérable. Mais au-delà de ça, il est très important de garder cette donnée personnelle dans ce champ des droits de la personne, parce qu'elle parle de nous, et ne pas imaginer, c'est très tendance aujourd'hui, que en en marchandisant la donnée, on va la protéger. Au contraire, il faut renforcer ce droit à l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire ce droit à la maîtrise de nos données. Avec, on peut imaginer des tas de régimes juridiques, le RGPD en est un, mais on n'est pas au bout du chemin. Il va falloir continuer à déployer un imaginaire juridique parce que les technologies évoluent, parce que les usages évoluent. Imaginez tout un faisceau de droits qui permet à l'individu de dire ce qu'on a le droit ou pas de faire à sa donnée, avec sa donnée, sans pour autant glisser vers un régime patrimonial, un régime commercial.
Bon, je vous écouterai encore des heures, Valérie Peugeot, mais voilà, on arrive déjà à 8h45 avec tout ça, donc dans le dernier temps des matins du samedi. Restez bien sûr avec nous, la porte s'ouvre pour accueillir Jackie Durand. Mais d'abord, c'est l'idée culture. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Une physicienne ce matin, Mélanie.
Oui, tout à fait. Il s'agit de Catherine Bréchignac. C'est une grande spécialiste des nanosciences et de la physique nucléaire, ancienne directrice du CNRS. Elle vient de publier un ouvrage qui est un hommage d'ailleurs à tous les passionnés de sciences, de découvertes. Ça s'appelle « L'irrésistible envie de savoir ». Ça vient de paraître au Cherche Midi. Et c'est précisément un regard de scientifique. Vous allez l'entendre, qu'elle pose sur l'œuvre dont elle nous parle.
Alors, j'ai envie de vous parler d'un des tableaux les plus emblématiques de Salvador Dali.
L'unique différence, et c'est une différence importante, mais minime quand même, l'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Bonjour.
C'est un tableau qu'il a peint en 1931 et qu'il avait intitulé « La persistance de la mémoire », mais qui est plus connu du grand public sous le nom « Les montres molles ». Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il a voulu peindre le temps. Peindre le temps. Le temps qui passe. Le temps qui s'écoule. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'âge de l'adolescence quand j'ai rencontré ce tableau dans un magazine. Et depuis, j'y pense extrêmement souvent. J'essaye de le retrouver quand il y a des expositions ou parfois de le revoir. Alors ce tableau entremêle l'extérieur et l'intérieur. Alors l'extérieur, c'est la plage de Porlingat, un port qui est très cher au cœur de Dali. Et il le dépeint un soir. Il y a encore quelques rayons de soleil, la mer est calme, bleue. Au fond du tableau, à droite, il y a une falaise qui est assez déchiquetée et les rayons du soleil éclairent cette falaise. Ça, c'est l'extérieur et il n'y a personne sur la plage. Et on a l'impression que le temps est suspendu. L'intérieur, c'est un plateau de table, un meuble qui est un cube posé à même le sol. Et sur ce tableau, il y a 4 montres. Une montre rigide, sur laquelle il y a des fourmis, sur le cadran, donc on ne peut pas voir l'heure. Et 3 montres molles, qui sont des montres un peu comme de la pâte à modeler, qui s'écoulent. Et le temps est différent sur chacune des montres. Il explique ce tableau en disant qu'à la fin d'un repas, quand Gala et ses amis sont allés au cinéma, lui est resté à la maison parce qu'il avait une migraine. Son regard était vague et parcourait la table. Il a rencontré une assiette sur laquelle se trouvait un camembert. Et ce camembert se mettait à couler. Et donc, ça lui a donné l'idée du temps qui coule et surtout une certaine angoisse à propos de ce temps qui coule. En fait, Dali était contemporain d'Einstein, de savant du début du XXe siècle. Et Einstein avait, à l'époque, décrit la théorie de la relativité qui expliquait que l'espace et le temps étaient liés et que le temps était élastique. Et Dali, qui avait très envie de comprendre la science, allait écouter de la vulgarisation. Et on se pose la question, est-ce que Dali a eu envie de mettre cette notion de relativité dans son tableau? Ou est-ce que c'est le regard des scientifiques qui, a posteriori, ont rajouté à ce tableau cette dimension du temps élastique? Alors pour moi, ce tableau est revenu brutalement dans mon esprit, dans ma mémoire, lorsqu'il y a eu la détection des ondes gravitationnelles en septembre 2015. Et on a détecté une toute petite déformation de l'espace. Et lorsque j'ai su ça, je me suis dit, mais est-ce que la montre de chacun d'entre nous ne s'est pas légèrement déformée? Et en fait, ça a encore enrichi le tableau de Dali.
Est-ce que c'est un artiste qui vous touche en général ou c'est ce tableau en particulier ?
Non, c'est un artiste qui me touche en général. Tout d'abord par sa folie, parce qu'il est, surréaliste. Et que le surréalisme, c'est une période intéressante parce qu'elle met de l'imagination sur la réalité. Mais au fond, malgré tout, la réalité surpasse toujours la fiction. Donc ce surréalisme-là, il est surréaliste, mais au fond, il est encore en dessous de la réalité. C'est du surréalisme sous-réaliste.
Jolie formule hein, que ce surréalisme sous-réaliste. Alors si on tend l'oreille, hein, c'est bien la voix de Dali qu'on peut entendre mixée avec la musique. C'est un titre. Le titre s'appelle Salvator Dali par Blaine Reininger de l'album Glossolalia.
Merci Mélanie. Dali, Valérie Peugeot, est un artiste que vous appréciez ou pas du tout ?
Non, il ne me touche pas particulièrement.
Ça arrive, je suis désolée. Vous avez le droit
de le dire. C'est pas partie de mes préférés, loin s'en faut.
Peut-être que ce que va dire Jackie Durand va vous plaire un peu plus que les montres molles de Dali, puisqu'à 8h51 sur France Culture, c'est l'heure des mitonnages de Jackie, notre confrère de Libération. Même si, vous allez le voir, Jackie Durand a toujours le don de nous surprendre, puisque je pensais que vous alliez nous parler des ormeaux et des étoiles. Le guide Michelin a sorti sa nouvelle édition 2018 en début de semaine. Et non, vous m'avez apporté, et vous nous avez, je dis me, parce que en l'occurrence les auditeurs ne peuvent pas apprécier autant que moi ce que j'ai sous les yeux, mais autour de la table, nous apprécions déjà l'odeur, donc vous nous avez apporté du pain, Jackie.
Oui, je vous ai apporté du pain, et vous connaissez ce pain ?
Non, pas encore. Ils sont très bons.
C'est du pain à la farine de sarrasin, ce fameux blé noir utilisé pour faire les galettes bretonnes. Il a été confectionné hier matin à l'aube par le boulanger de la Butte. C'est un hôtel-restaurant qui se trouve à Plouhidère, dans le Finistère. C'est à côté de Morlaix. À travers cet établissement qui possède une étoile au Michelin depuis 2014, je veux rendre ce matin hommage à toutes ces tables magnifiques, étoilées ou non d'ailleurs, qui nous régale, nous émeuve, sans tout le tapage médiatique que l'on vient de vivre avec la sortie du dernier guide rouge. Évidemment, une étoile, c'est une belle reconnaissance de la part du Michelin, mais nous restons trop souvent focalisés sur les têtes de gondole, les trois étoiles stars du guide avec les bruits de fond, les rumeurs, les pronostics qui les entourent. Alors ce matin, arrêtons-nous à la Butte, à Plouhidère. C'est un endroit qui s'écoute d'abord, les yeux fermés, vous entendez le vent et même le bruit des vagues comme ça dans la nuit. Au matin, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être devant une aquarelle avec le blanc des nuages qui moutonnent dans un ciel qui va du violet à l'azur et la mer qui écume la baie de Goulven. Tout cela, c'est le paysage de Solène et Nicolas Conraud qui dirigent la Butte. Et les Bretonnes, il est alsacien, ils se sont connus à l'école hôtelière de Strasbourg et ils ont repris l'hôtel-restaurant de la famille de Solène où Nicolas a appris son métier de chef auprès de son beau-père car au départ, il se destinait à diriger des hôtels et pas à être au fourneau. Alors il n'a pas le CV de ces chefs quadras qui alignent leur passage dans des restaurants étoilés comme une table d'honneur, comme un tableau d'honneur. Mais il est sacrément épatant ce cuisinier d'Est en Ouest parce qu'il possède une qualité qui n'est pas si répandue en ces temps souvent d'esbrouf, l'harmonie. Oui, sa cuisine est harmonieuse. Il la veut lisible quand l'époque convoque souvent les contrastes et les chocs gustatifs pour épater. Donc, pas plus de 3 ou 4 ingrédients pour des assiettes qui sont délicates comme une aquarelle. Tiens, prenez sa recette. Rouget, châtaigne, veau. C'est un conte d'hiver avec le poisson enlaçant la tête de veau et le riz de veau qui matche avec la châtaigne. C'est techniquement parfait, mais c'est surtout une belle leçon de choses entre terre et mer. Tout comme son huître, veloutée, sarrasin, mousse de lait ribot, ce lait fermenté breton. Vous allez me dire, nous sommes dans l'épicentre des saveurs bretonnes. C'est vrai, mais chez Nicolas Conraud, c'est beaucoup plus que l'air du temps locavore. Il met en avant ses producteurs dans un journal qu'il édite lui-même, à 5000 exemplaires. On y trouve des reportages sur les ostréiculteurs, les minotiers, les pêcheurs qui fournissent la Butte, et des recettes concoctées depuis le commis jusqu'aux secondes cuisines. Tout le monde donne sa recette. Et puis, bien sûr, à la Butte, on peut aussi déguster cette drôle de bestiole locale qu'est l'ormeau.
Moi, je croyais que c'était un petit orme, mais c'est pas un petit orme, c'est une sorte d'escargot de mer, non ?
Oui, le hormo, il appartient à la famille des gastéropodes, tout comme l'escargot. On peut le pêcher à pied, mais aussi en plongée sous-marine. Mais dans ce cas, il faut être pêcheur professionnel et bénéficier d'une autorisation, car il a beaucoup souffert de la surpêche, l'hormo, du braconnage et aussi des ravages d'une bactérie. C'est donc une bestiole protégée. Nicolas Conro, il le cuisine sauvage, mais aussi il cuisine des hormos d'élevage. Avant-hier, nous sommes allés en mer ensemble avec Sylvain Huchette, qui est le fondateur de France Aliotis, qui élève des hormos bretons en pleine mer. Et c'est une sacrée prouesse, cet élevage-là. Parce qu'au départ, Sylvain Huchette, il est docteur en biologie marine, il est tombé amoureux de l'hormo lors de ses études en Australie. Et surtout, il a mis au point une méthode d'élevage qui permet le long développement de l'hormo, car il faut du temps avant de déguster ce mollusque à la belle coquille nacrée. 3-4 ans, en mer, dans des cages immergées, où on va nourrir l'hormo avec des algues récoltées à la main. France Aliotis expédie ses hormos en colis réfrigérés dans toute la France pour les amateurs. Vous pouvez aller aussi les acheter sur place à Plouguerneau. À la butte, Nicolas Conro sert l'hormo cuit avec un beurre mousseux, une pomme de terre enroulée autour de l'algue qui sert à nourrir l'hormo. C'est vraiment très très bon. Et juste une dernière précision, à la butte, la clientèle est aux trois quarts locale parce que la maison se fait un devoir de cultiver la proximité avec des prix qui sont plutôt sages.
Eh ben vous voyez, on a finalement eu le pain, les étoiles et les ormeaux. Vous
en
avez déjà,
ça
donne envie de partir,
tout
hein.
De suite.
Valérie Peugeot, vous connaissez les ormeaux, vous avez déjà mangé des ormeaux?
Et non, jamais, justement, j'en ai vu récemment et j'hésitais à me laisser tenter, mais ça reste très cher. En tout cas, aujourd'hui, à Paris, ça reste peu accessible.
C'est un mets qui est cher parce que c'est un mets qui est rare et qui est long à élever. Cela dit, quand on va, en Bretagne, on peut se les procurer à des prix qui sont plus doux et puis on peut tenter d'aller les pêcher à pied quand c'est la saison et les manger assez facilement dans le Finistère.
Les mauvaises langues vous diront, encore faut-il aller en Bretagne quand on n'est pas en Bretagne et donc payer le prix du transport pour aller en Bretagne acheter des ormeaux moins chers.
Tout à fait.
Bon allez, je vais arrêter d'être mauvaise langue. Valérie Peugeot, on va terminer avec vous en musique, avec votre choix musical. Et je crois que ce choix musical est un choix lié plus ou moins à notre sujet du jour, en tout cas aux réseaux sociaux et à Internet, puisqu'il est question d'une rencontre amoureuse sur les réseaux sociaux. On en écoute quelques notes et vous nous expliquez ce choix ensuite.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux.
Valérie Peugeot, qu'est-ce qu'on entend alors?
Là, on écoute Angèle, qui est une jeune chanteuse belge, assez prometteuse. Et oui, j'ai choisi ce titre ce matin, d'abord parce que je trouvais qu'il était adapté à un samedi matin cotonneux et doux. Et je l'ai choisi pour son contenu, puisqu'il parle effectivement d'une rencontre amoureuse qui se fait sur les réseaux sociaux, et où il y a toute cette ambiguïté entre ce qui se noue en ligne, sans nécessairement se rencontrer, et le passage... On n'a pas entendu toute la chanson, mais le passage après une vraie rencontre. Et je trouve que ça illustre bien ce que nous disions pendant l'émission sur ce rapport entre l'intime et le social. Quoi de plus intime qu'une rencontre amoureuse? Et en même temps, elle se passe dans le cyberespace. Et donc, elle est aussi éminemment sociale.
Merci beaucoup, Valérie Peugeot.
Je vous en prie.
Merci également à vous, Jackie Durand. Alors, je rappelle quand même le titre d'un livre qui est sorti l'année dernière, Valérie Peugeot, que vous avez écrit avec Serge Habitboul. Terra Data, qu'allons-nous faire des données numériques parues aux éditions Le Pommier et qui poursuit la conversation que nous avons eue ce matin.